Les haut-parleurs, l'émission qui parle fort.
Dans notre ville,
de la rencontre,
de l'écoute,
de la découverte,
de l'échange,
de la diversité,
de l'humour,
de la simplicité,
de la bonne humeur,
de la curiosité.
Passez un bon moment.
Bien, toujours en direct de la Malerie à Villeneuve-d'Ascq sur la journée santé mentale et travail. Et nous avons comme invité Maxime. Maxime, on a beaucoup entendu parler de vous, là, ici sur le plateau. Visiblement, vous êtes une figure de l'emploi, de l'accompagnement. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors bonjour, je m'appelle Maxime Florquin, je suis chargé de projet handicap pour Lille Avenir, donc il y a la maison de l'emploi, la mission locale et à la fois le PLI pour les communes de Lille, Lomme et Lemme. Donc je suis un ancien aussi, moi je suis un travailleur social de formation, j'ai travaillé pas mal dans le milieu de la précarité notamment, club de prévention, ce genre de choses, CARUD également, le CARUD réduction des risques d'usage de drogue. Donc de par mon cheminement, et je partais tout le temps aussi dans les séjours adaptés, moi c'était quelque chose pour moi obligatoire. Donc j'ai toujours aussi baigné un petit peu dans le handicap. Aussi j'avais dans ma famille des personnes en situation de handicap, donc ça peut peut-être avoir un lien. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la thématique emploi revenait souvent, en tout cas dans les demandes des personnes qu'on accompagnait à l'époque. Donc je me suis formé en sens, dans le conseil de l'emploi on va dire, et je me suis retrouvé à travailler au Cap Emploi, donc il y a une bonne dizaine d'années. Donc j'ai travaillé un peu plus d'un an et demi là-bas. Et ensuite, je suis arrivé à la mission locale de Lille en 2015, ou fin 2015. Enfin bref, en tout cas, au niveau de mon parcours, c'est qu'on a vu l'évolution quand même. Alors, travailler aussi avec la MDPH, à se rendre compte aussi. C'est peut-être qu'on n'a peut-être pas mal parlé de ma personne, parce que c'est vrai que dès qu'il y a une nouvelle action, un nouveau dispositif, quelque chose de nouveau qui arrive, je contacte et je dis « Salut, comment est-ce qu'on travaille ensemble ?» Voilà, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet ici, et je pense que l'important, c'est bien de faire une semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, mais c'est toute l'année qu'il faut qu'on travaille là-dessus. On nous parle d'inclusion, ce genre de choses, il y a eu les Jeux Olympiques et tout, les Paralympiques, c'était plein de bonnes intentions. On a quand même formalisé un projet assez, je ne vais pas dire ambitieux, mais écrit main dans la main avec l'ADAPT. Donc c'est vrai qu'après, Au niveau alimentation, pour ces événements-là, pour ramener aussi tous les partenaires et ce genre de choses, c'est vrai que j'étais un petit peu considéré comme personne ressource, on va dire, par rapport à tout ça. Comme dit Olivier Wilt, lui il dit « je suis un petit peu une boussole de l'orientation un petit peu ». Nous, on essaye de travailler aussi avec les années sur les questions de santé mentale, notamment. On est quand même avec un public jeune, donc on a envie quand même aussi de favoriser tout ce qui était la pérédance aussi au niveau de nos jeunes, les mettre aussi en mobilisation, c'est-à-dire de faire ensemble, de rompre l'isolement par le biais d'activités, des visites, des activités manuelles, des activités aussi de savoir-être, d'expression et ce genre de choses. Parce que, ok, on est un service public de l'emploi, mais il y a beaucoup de choses, nous, qu'on doit quand même travailler ensemble. Les jeunes qui viennent s'inscrire chez nous, c'est « je veux de l'emploi, je veux de la formation ». Ouais, mais il n'y a pas que, d'accord ? On va essayer de travailler pas mal d'autres choses. Donc, en tout cas, je pense que les partenaires peut-être ont pu peut-être me citer, parce que je pense que, je me suis juste occupé de faire la mise en relation, et l'objectif premier là, de ce matin, c'était super, c'est qu'on se rencontre les uns les autres, c'est comme je reprends aussi tout à l'heure la citation de M. Talpert de la GFIP, qui a dit ce qu'il faut, et ça je suis d'accord avec, c'est de décloisonner le sanitaire, le médico-social et le professionnel. Que tout le monde se connaisse les uns les autres et qu'on ait une vraie complémentarité et pas qu'on travaille chacun dans notre petit précaré, dans notre coin, pour dire « Ah ben non, mais lui, il pourra jamais travailler. » Et de se dire « Ah ben non, si, Il peut, mais avec des aménagements et avec un bon environnement. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc voilà, l'environnement, il peut être social, il peut être aussi, on parlait d'aménagement, on parlait de tâches à effectuer. Moi, je pense que tout l'intérêt pour moi de cette matinée, c'est que tout le monde rencontre tout le monde et qu'on puisse travailler ensemble comme ça tout au long de l'année, quoi.
Avouez quand même que Medico a d'une complexité. Là, effectivement, vous évoquiez le secteur du sanitaire, le secteur du médico-social, et maintenant, c'est le secteur du professionnel qui arrive en troisième position. Comment vous faites pour coordonner tous ces milieux ?
Alors, justement, il faut savoir déjà qui fait quoi. D'accord. Qui fait quoi? Comment est-ce que chacun fonctionne? Et on entend quand même au bout d'un moment qu'on a le secteur hospitalier qui se dit aïe, aïe, on aimerait bien voir ce qui se passe un petit peu en dehors de nos murs. On aimerait savoir quand même qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Le médico-social, on peut y venir. Hein. Moi, je sais que j'ai déjà eu des petits accrochages, on va dire, avec notamment des structures institutionnelles, hein, type ITEP, IME, ce genre de choses. Vous vous dire, ah non, là, il y a le monde cruel du travail, t'as 20 ans, non, on va pas te lâcher, non, faut que tu restes là, entre quatre murs, faut que tu restes protégé. Et justement, on parle d'inclusion. Moi, je vois plutôt le vivre ensemble. Le vivre ensemble et le secteur professionnel qui, eux, se dit, oula, bah, handicap, moi, c'est pas grave, c'est bon, on a de quoi accueillir une personne en fauteuil. Ouais, ok, sauf que, voilà, nous, on travaille quand même beaucoup aussi, on a conventionné avec l'ADAPT, hein, aussi avec les groupes de pères aidants et ce genre de choses pour banaliser également la santé mentale. Parce qu'il faut savoir quand même que toute personne, et moi, là, tout à l'heure, je parlais avec un employeur, vous savez, je pense que parmi vos salariés, il y en a au moins un sur deux qui a eu des soucis de santé mentale. Que ce soit lui directement ou un de ses proches. Je fais là-dessus, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Et je pense que ça, il y a eu un effet qui se coule à l'après-Covid, moi je trouve. Où là, c'est plus tabou, moi, en échangeant aussi pas mal avec la psychiatrie, ça n'est plus tabou de dire qu'on ne va pas bien. Ça n'est plus tabou de dire « je vais aller voir un psychologue ». Ça n'est plus tabou de dire « je prends un traitement ». Et je pense qu'il y a aussi là, ils ont réouvert les portes et tout ça, voilà, après le confinement et ce genre de choses. Il y a eu pas mal de répercussions, hein, du point de vue social. Mais je pense que, justement, il y a une demande de personnes de se sociabiliser, hein, et de se dire « je ne suis pas seul avec mes problèmes », au contraire.
Et d'être reconnu.
Exactement, qu'il y a une légitimité par rapport à ça. Et je pense qu'il y a un petit changement sociétal qui évolue à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire. Et ça, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine aussi. Mais au niveau du professionnel, le sanitaire, de se dire qu'il y a des choses qui sont possibles. D'accord. Le médico-social, pour eux, sont dans l'accompagnement, mais ils ont quand même une vision un peu plus large maintenant, en se disant, bon, il faut qu'on ouvre aussi nos chakras, qu'on ouvre un petit peu nos portes au bénéfice des personnes qui sont accompagnées. Et le professionnel qui se dit, allez, c'est pas grave, allez, viens faire un essai chez moi, on va voir ce que ça donne. Et puis, et voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même une évolution. Hein, j'ai trouvé quand même ces 5 dernières années. Hein, là, bientôt, on a bientôt 5 ans de Covid, quoi. Je trouve. Après, on est loin du compte. On est bien d'accord.
Oui, moi, je voulais juste revenir sur le fait qu'effectivement, depuis avec l'après-Covid, on a aussi une déstigmatisation de la psychiatrie qui commence à vraiment évoluer. Moi, je sais que c'est un peu notre dada. Moi et Ahmed, la déstigmatisation. Et c'est super important, tout ce qui est fait aujourd'hui, je pense, c'est très important pour ça. Et c'est vrai qu'il y a ce fait que, où que tu ailles dans cette pièce, même nous qui sommes juste, on va dire, des patients, on n'est pas les seuls à avoir eu des troubles psy. Je pense qu'il y a tout le monde a eu un mauvais moment de santé mentale dans sa vie ou quoi. Et effectivement, c'est plus tabou, mais c'est encore difficile d'en parler. Parce qu'il reste encore des préjugés et des a priori. Et je pense que justement une initiative comme celle de ce matin est importante aussi, parce qu'elle permet de décloisonner le discours, en fait.
Absolument. Mais c'est une chance aussi que de vous avoir quand même là dans le service dans lequel vous êtes, parce que vous avez quand même un parcours particulier, une ouverture particulière. Tous les services n'ont pas cette ouverture. Donc on revient encore une fois aux questions de personne, ouais, aujourd'hui, ouais, qui dirige ou qui oriente. C'est la même histoire des employeurs. Bien sûr. Employeurs, est-ce qu'ils sont sensibilisés aussi à la santé mentale, à la souffrance mentale, à la souffrance psychique, à la psychiatrie. Est-ce que là aussi, puisqu'on est maintenant sur le domaine professionnel, on n'est plus dans le clivage du sanitaire vers le médico-social, du médico-social, maintenant c'est le sanitaire médico-social vers le professionnel. On est d'accord, aujourd'hui c'est ça, ici.
Ouais,
c'est
ouais.
Ce qui fait qu'on est là aujourd'hui.
Et aussi vice-versa, aussi le contraire. C'est-à-dire que nous aussi, par rapport... Donc nous, on a quand même structuré... Enfin, voilà, moi, je supervise une équipe de 10 conseillers qui ont une dominante handicap chez nous, dans tous nos services, que j'ai pu acculturer, qui puisse les accompagner, convenablement quand même, il faut une technicité. Et il y a aussi une importance aussi de pouvoir faire le lien également avec les structures de soins. On travaille main dans la main, c'est-à-dire que la personne c'est bon, elle est stabilisée, c'est bon, je te l'envoie. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des passerelles, mais que ça aille dans les deux sens également. Et puis que surtout que les personnes ne se trouvent pas brinque-ballées partout. En se disant, on va là-bas. Non, de rassurer les personnes en se disant, on se connaît, on essaie de travailler ensemble. Ça a pris des années, ça prendra encore des années. Comme je le disais, on est loin du compte, mais on a déjà posé les bases de quelque chose. Et oui, le pro devient un sujet également parce que il y a des secteurs qui ont du mal à recruter. Il y a des secteurs qui s'ouvrent également aussi sur la thématique du handicap et de santé mentale parce qu'ils ont des collaborateurs, des collaboratrices qui font des burn-out. On parle d'épuisement professionnel. Alors c'est marrant parce qu'on prend, par exemple, il y a une dizaine d'années, on parlait pas mal de déficience intellectuelle. On parlait de déficience partout. Le handicap psychique était un petit peu planqué. Il était un petit peu planqué dans son terrier. Santé mentale, handicap psychique, oui, ok. C'est 3% de schizophrène, c'est pas grave. Enfin bref, je vulgarise. Mais là, c'est devenu un petit peu plus prégnant ces dernières années à l'après-Covid. Je reprends encore là-dessus. Parce qu'on a à la fois déstigmatisé, c'est rentré un petit peu plus. Alors là, on est loin du compte. Banaliser la santé mentale, ça serait un beau projet. Banaliser les handicaps psychiques dans la société. Mais on sent aussi les employeurs qui ont besoin... Également, bon, là, le CREPSI n'est pas présent, mais on est en échangé avec. Il y a pas mal d'employeurs qui viennent nous solliciter en se disant « Ah bah voilà, moi j'ai tel salarié voilà, qui est en arrêt truc depuis longtemps. J'aimerais bien qu'il revienne au boulot, mais là apparemment il va faire un dossier reconnaissance handicap. Qu'est-ce que je dois faire? Moi je ne suis pas outillé, mais j'ai envie qu'il revienne bosser. Enfin, »
Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce constat-là, que l'employeur, comme ça, se batte pour son employé? Parce qu'à une époque, l'employé malade, bon, c'était viré, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'employeur, il est dans cette sensibilité, dans cette posture?
Moi, je pense qu'il y a déjà des réels besoins au niveau d'emploi et que, quand même, je trouve que pas mal d'employeurs ont changé leur fusil d'épaule en se disant qu'on veut pérenniser nos activités et qu'on a une bonne personne qui est assez productive et qui, en trouvant le bon moyen de compensation, on veut la garder. Je pense qu'il y a de ça aussi, quoi, se dire, on est passé par des choses pas évidentes, surtout en plus les entreprises et tout ça, les aides, beaucoup qui ont mis la clé sous la porte et ce genre de choses. Donc s'ils se disent, là, l'activité, elle reprend. Ok, il y a une personne qui a des besoins. Nous, on vend ça comme ça. Le handicap, nous, on vend ça, c'est que tu fais un dossier MDPH, c'est que tu as des besoins. Tu arrives devant un employeur, c'est-à-dire, j'ai une RQTH, on s'en fout de ta pathologie, c'est juste de dire de quoi est-ce que j'ai besoin. Ça, c'est un discours qu'on partage avec les partenaires de l'accompagnement. Et c'est vrai, c'est clairement ça. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi aux personnes accompagnées chez nous, c'est de se dire, arriver en soyant expert de sa situation. De toute façon, on sait, la santé mentale, c'est fluctuant. On sait que, d'où par exemple l'existence et la mise en place, et ça, je suis partisan de l'emploi accompagné, je suis partisan de ça, parce que c'est de la sécurisation de parcours, sans limitation de durée, et parce qu'on sait que c'est fluctuant, rien n'est figé, il n'y a pas de parcours type. Donc, il y a aussi un changement de regard par rapport à la santé mentale, au fait que les employeurs se disent, ok, tu as des difficultés, moi, je sais que moi aussi, dans ma famille, j'ai eu ça, moi, j'ai mon fils qui a eu ça, j'ai truc et tout. Et en gros, ouais, il y a quand même le souhait de garder quand même les personnes. On a vu là ces dernières années, là on prend en 2022, par exemple, là, tout à l'heure on entendait les chiffres, il y a eu une explosion de contrats en CDI. Une explosion de contrats en CDI, quoi. Une forte croissance, une forte taux d'embauche. Donc il y a un souci de sécurisation.
Quelque chose qui est positif, c'est qu'on crée des nouveaux emplois.
Ouais.
Là, on a pas plus tard qu'il y a quelques minutes avant vous, on a un nouvel emploi qui est du job coach.
Ah oui.
Bon, Ah oui. C'est nouveau, ça.
Exactement. Et là, vous doutez qu'on s'est déjà vu à plusieurs reprises pour travailler ensemble hein, sur des publics co-accompagnés, notamment de 1 chez soi d'abord. Hein, notre structure est également équipe d'orientation pour le 1 chez soi d'abord jeune. Donc là, forcément, on s'est dit, tiens, là, il faut qu'on travaille main dans la main par rapport aux situations qu'on co-accompagne. Hein, et c'est une nouvelle façon aussi voilà, d'appréhender hein, le chemin classique d'accès à l'emploi. Quoi. Alors l'accès à l'emploi, on n'est pas mauvais, hein, mais il y a aussi le maintien qui est hyper important, quoi, qui est vraiment primordial. Parce que nous, c'est ce qu'on dit, hein, sur l'accès à l'emploi, on n'est pas mauvais. Hein, des fois, 3-4 mois plus tard, ouais, non, ça n'allait pas, j'ai lâché. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi appel à l'emploi accompagné pour qu'il puisse aussi sécuriser les parcours. Hein, on parle de sécurisation et de maintien. D'où l'importance hein, de mettre aussi de plus ou moins un squelette de parcours d'insertion. Hein, c'est-à-dire qu'on fait du repérage, on fait de la prise en charge, on travaille sur l'acceptation aussi avec notre public qui est assez jeune hein, via la pérédance. Ensuite, on fait une partie de mobilisation. Mobilisation, à se dire travailler le savoir-être, prendre la parole avec les autres, gérer les imprévus. Et ensuite, on parle de démarche d'insertion professionnelle. Donc voilà, nous, par rapport à la façon dont on voit les choses sur l'insertion. Et c'est là que justement viennent aussi, dans toutes ces phases, on va dire, hein, d'insertion, dans toutes ces phases, c'est là qu'interviennent aussi les structures ici présentes.
Vous évoquiez la pérédance. De quelle pérédance on parle ?
Alors nous, pérédance, c'est plutôt des personnes qui ont eu un vécu et qui viennent le partager aussi avec des plus jeunes qui sont en cours d'acceptation. Hein, ce qui est difficile des fois, quand on a 20-25 ans, te dire « Ah, le diagnostic est posé, tu vas devoir prendre des traitements. » On sait qu'il y a un fort isolement quand même hein, au niveau des plus jeunes. Hein, sur notre tranche d'âge, hein, de toute façon, c'est les 16-25, c'est là où les troubles justement apparaissent. Et on se rend compte un peu plus tard chez les filles, d'ailleurs, au niveau des troubles psychiques.
Donc la personne qui a cette pathologie vient partager son expérience, c'est ça ?
C'est l'idée, exactement.
Et vous, là, vous le faites dans votre structure ?
Alors là, on a déjà commencé à le faire, ouais. Ouais. Là, on a déjà fait un conventionnement avec le Clubhouse. On avait déjà fait un partenariat avec un GEM aussi, également. Et là, on a le COFOR également, et puis l'association Pérénage qui va venir intervenir auprès de groupes de jeunes. Ouais.
Alors ça, ce sont des informations que j'aimerais bien voir remonter du coup à notre web radio, parce que moi je suis très intéressé justement par le métier de la pérédance. Je sors d'une structure. Alors avant cette structure, j'avais déjà cette idée de faire de la pérédance, parce que j'ai une certaine locution, je suis relativement stable. Et j'ai fait là 6 mois en structure, et pendant ces 6 mois en structure, je me suis aperçu que c'était vraiment ce que je voulais faire, déstigmatiser, libérer la parole, permettre à quelqu'un qui n'a pas encore, qui se cherche, qui n'a pas encore toutes les clés, tout ça, d'avoir un coup de main en fait de la part de quelqu'un qui a été dans le secteur et du coup qui le connaît bien. Donc voilà, c'est des informations que moi j'aimerais bien voir remonter vers nous en fait.
Eh ben avec plaisir. Hein. Voilà. On aura l'occasion, on a un beau projet pour 2025 à ce niveau-là. J'en ai parlé justement avec la direction régionale de la GFIP. Hein. On a une réunion prévue là, avec l'ADAPT, justement, avec qui on a coécrit ce projet, au mois de décembre. Là. Donc nous, l'idée, c'est que là, on a déjà été présenté ce projet au niveau de l'ARS. On est passé en jury, on attend, mais quoi qu'il en soit, nous, on va le faire tant qu'il est chaud. On parle de santé mentale comme priorité du gouvernement. Nous, on le remarque sur le terrain. On le remarque sur le terrain. Donc moi, après, je me retrouve avec des institutionnels. Sur ma fiche de poste, je ne suis même plus obligé d'accompagner du public. Je regarde quand même 15 dans mon portefeuille, parce que pour moi, c'est obligatoire. On sait de quoi on parle une fois qu'on se retrouve devant des institutionnels, quoi. Clairement, quoi. On a des billes, on sait comment ils mettent les formes et ce genre de choses. Donc oui, moi, ce serait avec grand plaisir hein, de venir s'adresser à un groupe de jeunes, hein. clairement. Donc on est en train de modéliser tout ça. C'est déjà modélisé, hein, par contre. Mais maintenant, on a envie que ce soit bel et bien effectif, quoi. On a fait voilà, des petites expérimentations, mais là, on est vraiment bien que ce soit bien formalisé, effectif, et puis qu'il y a forcément un financement derrière.
Hein, évidemment. Douter. 2025, année de la santé mentale.
Crucial.
On verra ce que ça va donner.
Oui, exactement.
Mais en tout cas, on est là en acteur.
Eh bien, oui, en acteur. Et puis, comme on dit chez nous aussi, allez, je fais une petite parenthèse, chez un de nos parrains de Radio Boomerang à Roubaix, HKL et Saint-Amand, on lâchera rien.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Les haut-parleurs, l'émission qui parle fort.